Une information, c'était Mohamed Oumfa pour vous le présenter.
Bienvenue à tous et à toutes sur votre émission hebdomadaire Sporama sur la voie de l'Amérique. Une vingtaine de minutes pour passer au crible l'actu du sport de la semaine. Élisée Mpassi en direct avec vous et pour m'accompagner, Lawal Dinkosuro comme d'habitude dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
On prend la direction de Columbus dans l'Ohio, se trouve à Medine City. Bonsoir Medine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOAC.
En direct de Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis Valdo Simbo Nyama Yamba à Yaoundé au Cameroun. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Au sommet ce soir, le comité de gouvernance de la CAF autorise enfin Mosepe et Yaya aux élections du 12 mars prochain à Rabat au Maroc, pendant que le tribunal arbitral du sport réhabilite Ahmad Amas dans ses fonctions. Et puis, on connaît le dernier carré du championnat d'Afrique des Nations de football qui se joue actuellement au Cameroun. Bienvenue sur Sporama et bonsoir à tous. Le championnat d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun entre dans son dernier virage. Plus que deux matchs et le vainqueur sera connu. À Médine, à l'issue d'un quart de finale très disputé, le Mali sera présent dans le dernier carré. Les Aigles sont venus à bout des Diables Rouges du Congo au tir au but.
Tout à fait Élisée, le Mali présent dans le dernier carré. Les Aigles locaux maliens ont composé le ticket pour les demi-finales du CHAN. En écartant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville après la série de tirs au but, 5 tirs à 4, à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux formations étaient à égalité 0 but partout. Donc il a fallu passer par la science fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes et les Maliens ont été plus adroits en marquant 5 tirs contre 4 pour les Congolais. Avec cette qualification, le Mali jouera pour la deuxième fois de son histoire une demi-finale de CHAN après 2016. Élisée.
Valdo, le Cameroun renverse la RDC et file en demi. Une fois encore, les Léopards s'arrêtent en quart de finale.
Alors qu'elle espérait autre résultat que cette défaite face au Lyon, la RDC n'y est pas parvenue. Les Lions ont été renversants, puisque menés, ils ont réussi à revenir à la marque et faire la différence en inscrivant ces deuxièmes buts qui leur permet de l'emporter une fois de plus sur la RDC. 2-1. Élisée, rien de nouveau dans cette défaite de la RDC. Ils l'ont déjà fait dans la même compétition. Ces Camerounais tenaient en 2011 victoire 2-0 sur la RDC et puis en 2016, alors que la RDC a été championne cette année-là, mais avec une défaite 3-1 en dernier match de la phase des groupes face au Lyon. Et en 2021, à domicile, ils ont été plus forts en préservant une fois de plus leur ascendance sur les Léopards de la RDC. De son côté, la République démocratique du Congo doit apprendre à répondre présent face aux grosses écuries du continent.
Lawal, la Guinée est venue à bout du Rwanda et rejoint le Mali en demi.
Oui, c'est l'issue de cette rencontre qui n'a pas été du tout facile pour les Guinéens, il faut le dire. Ils ont forcément pu chercher les moyens nécessaires, les ressources mentales pour pouvoir venir au bout de cette équipe du Rwanda très tailleuse et qui a véritablement fait souffrir les Sili. Mais le
bijou de Molaï Sila, un coup franc,
c'était sublimissime si on pouvait le dire comme ça. Donc fondamentalement, il fallait ce coup de génie pour que la Guinée s'en sortent. C'est ce qui est arrivé maintenant. Les regards sont tournés vers les demi-finales. Demi-finale qui est fondamentalement sera carrément ouest-africaine. Guinée-Mali. Et ça va quand même donner du fil à retordre à toutes les équipes. Mais on espère que le meilleur va gagner.
Voilà. Comme en 2016, le Sili se hisse en demi avec l'espoir cette fois de passer cette étape et de jouer la première finale de CHAN de son histoire. Une finale d'ailleurs que vise le Maroc. Facile vainqueur 3-1 face à la Zambie. On écoute Youssine Amouta, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.
C'est vrai qu'on a entamé le match avec la plus grande détermination. Chose faite, parce que tous mes souhaits avant le match, c'était de concrétiser à partir de la deuxième, troisième occasion. Heureusement pour nous, donc, on a marqué dès la première occasion de but. Et puis, c'est vrai aussi qu'on a lâché un petit peu, même en étant en surnombre du joueur, on a lâché parce que moi, je savais que l'équipe nationale de Zambie, c'est pas une équipe qui est facile, parce que je la savais, je l'avais déclaré avant le match. Donc, c'est une équipe là qui qui se projette très rapidement vers l'avant, et puis ils nous ont causé beaucoup de problèmes. Depuis notre arrivée ici au Cameroun, nous nous focalisons et nous nous pensons et nous traitons que match par match. Donc à partir de ce soir au demain matin, on va donc un petit peu planifier et programmer comment on va affronter notre adversaire qui est un adversaire donc très 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 fort qui est le Cameroun.
Amine Birouk, le tenant du titre, continue son parcours.
Ils sont venus, ils ont vu, ils ont surtout vaincu. Les joueurs marocains n'ont pas fait de détails face à la Zambie. Victoire nette et sans bavure, 3-1. Une affaire pliée d'entrée dès les 8 premières minutes grâce à des réalisations de Rahimi après 30 secondes de jeu pour ce qui est certainement le but le plus rapide de l'histoire du Chan. Et puis Ali Bam Amr à la 8e minute qui a bien inscrit un troisième but. Et puis les Marocains se sont quelque peu relâchés en deuxième mi-temps permettant aux Zambiens d'inscrire le but de l'honneur. Les Lions de l'Atlas donneront rendez-vous mercredi prochain aux Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur à Limbé. Nous verrons quel lion rugira le plus fort et se retrouvera en finale à Yaoundé le 7 février prochain.
Voilà qui est clair. Une belle affiche en perspective en demi-finale, Lawal.
Très belles affiches, Élisée. Le Maroc qui sera face aux Lions indomptables. Le Maroc tenant du titre qui va fondamentalement chercher à conserver le titre. Les Camerounais qui, à domicile, vont vouloir donc apporter cette fièvre-là à leurs supporters. La guerre des Lions va être très, très, très intense.
On enchaîne avec les élections du président et des membres du comité exécutif de la CAF, la commission de gouvernance de la FETIA. Après avoir clarifié certains points lors de son audition, a finalement validé le dossier de tous les 4 candidats en lice. Ainsi, le Mauritanien Ahmed Yahia et le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui avaient vu leur dossier de candidature partiellement validé, pourront enfin se présenter pour les élections le 12 mars prochain à Rabat au Maroc, aux côtés du Sénégalais Augustin Senghor et de l'Ivoirien Jacques Anouma. Une décision qui intervient deux jours après que ces derniers ont passé avec succès le test d'éligibilité de la FIFA. Rappelons que c'est à la suite d'une décision du comité d'urgence de la CAF que la FIFA a apporté son sceau à ce scrutin du 12 mars dont le dénouement s'annonce imprévisible. Alors, Amine Birouk, tout est clair désormais.
Première manche remportée par Gianni Infantino qui a réussi à faire accepter les candidatures de Patrick Motsepe et d'Ahmed Yahia. Que ce soit au sein de la commission de contrôle de la FIFA ou lors du passage obligé devant la commission de gouvernance de la CAF. Aujourd'hui, ils sont 4 en lice. Et visiblement, on verra dans quelle mesure le camp anti-Infantino va pouvoir se rassembler autour d'une des deux candidatures francophones. Ce qui est certain, c'est que, l'acceptation aussi par le TAS du recours de Ahmed, qui redevient président de la CAF et qui aura peut-être une chance de plaider son innocence le 2 mars prochain, pourrait redistribuer les cartes dans une course palpitante à la présidence de la CAF, verdict le 12 mars prochain.
Lawal, cette décision ne souffre d'aucune surprise, vu que le Mauritanien et le Sud-Africain sont aussi candidats pour le poste de vice-président de la FIFA.
Oui, la décision, on devrait peut-être s'y attendre. Il y a eu une prévalidation, il y a eu des enquêtes qui se sont poursuivies finalement. Ils sont validés, c'est de bonne guerre. Et ça rend la compétition à la tête de la CAF encore plus intéressante pour les uns et les autres.
Ahmedine, la CAF aurait pu prendre la FIFA à contre-pied et garder son intégrité.
Oui, Élisée, la Confédération africaine de football aurait pu prendre la FIFA à contre-pied et garder son intégrité, certes. Mais dans cette affaire, je pense très sincèrement que la FIFA n'a fait que remettre à Ahmed Yahia et le Sud-Africain dans leurs droits, car je pense que le fait d'invalider la candidature du Mauritanien et du Sud-Africain était injuste, car jusqu'à présent, on ne sait pas ce que la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football reproche à ces deux candidats. C'est vrai maintenant que la FIFA ne doit pas faire de l'ingérence, mais quand un président de commission se permet de battre campagne pour un candidat, cela pose problème et il paraît que ce fut le cas, car le président de la commission gouvernance de la CAF qui est ivoirien, il n'a pas hésité à faire des éloges de son compatriote Jacques Anouma dans cette réunion et ces informations n'ont pas échappé aux responsables de la FIFA. C'est pourquoi la FIFA est intervenue dans cette affaire pour rétablir Ahmed Yahia et Motsepe dans leur droit Élisée.
Valdo, la grande surprise vient de Constant Omari qui ne se présentera pas au poste de représentant africain au Conseil de la FIFA.
Une surprise aux allures d'un acharnement, Élysée, sur l'actuel président par intérim de la CAF, puisqu'ayant renoncé être candidat au poste de président de la Confédération africaine de football, plutôt favorable au poste des membres permanents à la FIFA, et lui reproché d'être sous le coup d'une enquête en cours d'exécution et sa candidature ne peut être validée, alors que Omari jouit d'une présomption d'innocence, hein, puisque n'ayant pas été jusqu'à preuve du contraire condamné. Certaines réformes envisagées par la FIFA au niveau de la CAF n'ayant pas trouvé gain de cause, notamment ramener la CAN de 2 à 4 ans, Infantino s'en prend-il déjà à ceux qui lui résistent? Ahmad Ahmad en a payé les frais. Voici venu le tour du premier vice-président qui assume l'intérim de la CAF. Heureusement que l'État fait aussi son boulot en toute indépendance. La FIFA est en train de pousser out les durs et veut instaurer une nouvelle ère au sein de la CAF.
On revient vers vous, Amine. Même cas aussi pour l'Algérien Kheredine Zeshi, considéré comme un opposant à Gianni Infantino.
En tout cas, il ne se targuait pas d'être un opposant à Gianni Infantino. Bien au contraire, lors de son oral ou de son passage à Yaoundé en marge du comité exécutif de la CAF et de l'ouverture du chêne, Kheredine Zeshi s'est présenté comme un pro-Infantino. Aujourd'hui, on retrouve quelques casseroles dans son dossier puisqu'il avait été suspendu par la Fédération algérienne en 2016. Il a aussi écopé d'une sanction au sein de la CAF pour avoir protesté de manière véhémente et quitté la commission du chêne sans pour autant aviser les membres du comité exécutif et notamment le président. Il n'a pu remplir de bonne foi la case concernant les sanctions telles que c'était stipulé dans son dossier de candidature, et c'est en tout cas le passage obligé au sein de, je dirais, de la FIFA. Idem pour le président par intérim de la CAF jusqu'à aujourd'hui et actuel vice-président de la FIFA. Bien évidemment, on parle de Constant Omari qui a vu également son dossier recalé. Autant dire que Gianni Infantino est en train de gagner la bataille et que certains candidats non désirés par lui ne pourront pas se présenter au Conseil mondial de la FIFA.
On l'écoute justement. Il a réagi à travers une vidéo publiée par la Fédération algérienne de football.
Effectivement, j'ai reçu une correspondance de la part de la commission de contrôle de la FIFA qui invalide ma candidature au poste du Conseil de la FIFA. Je ne voudrais pas donner plus de détails parce que je veux user de mon droit de recours. Et à frais, c'est-à-dire la décision finale, je pourrais, c'est-à-dire donner plus d'éclaircissement sur ce dossier.
Lawal, finalement, c'est une confédération africaine de football gérée par la FIFA.
C'est bien triste que nos dirigeants à la CAF n'aient pas les moyens nécessaires pour prendre des décisions qui arrangent donc l'institution, l'instance de gestion du foot africain. Et qu'on commence par être téléguidé de l'extérieur, notamment des décisions prises par Gianni Infantino, le patron de la FIFA, on se demande bien pourquoi est-ce que la CAF existe alors qu'elle devait peut-être dire non à un certain nombre de choses, mais comme nos dirigeants, on sait comment ils sont, on sait qu'ils demandent toujours l'onction de la FIFA avant donc de prendre les décisions. On s'en désole, mais on n'y peut rien.
Justement, il y a plusieurs enquêtes contre Infantino, mais il n'est pas suspendu. Pourquoi écarter alors Constant Omari? N'y a-t-il pas une chasse aux sorcières?
Chasse aux sorcières, je ne vais pas le prendre comme ça, Élysée, parce que les enquêtes menées contre Infantino n'ont encore pas donné de résultats. On pourra me dire ouais, pourquoi est-ce que on a écarté les deux autres, parce qu'ils sont également sous enquête. Mais ce qui est important, s'il s'avérait que les enquêtes menées contre Gianni Infantino aboutissaient à un résultat probant, il sera suspendu parce qu'il n'est pas au-dessus des institutions.
Mais pour le moment, on ne le suspend pas.
Pour le moment, puisqu'on n'a pas encore assez d'éléments, je suppose, assez d'éléments pour apprécier la question, on le laisse encore en activité, le temps de rassembler les éléments. Et s'il était fautif de quelque acte répréhensible que ce soit, là, il sera suspendu en son temps. Parce qu'on a suspendu les 7 Blatter, on a suspendu Michel Platini, et tout le reste, ce n'est pas lui qui ne va pas être suspendu.
Et pourtant, cette même FIFA n'a pas pu appliquer ses propres tests. Le corrupteur et le corrompu sont passibles de la même peine.
Non, Élysée, Je sais un peu ce que vous voulez dire. On a suspendu Ahmad Ahmad, on n'a pas suspendu le Mauritanien, alors qu'ils étaient tous deux de la délégation. Ils avaient reçu les mêmes intérêts. Là, la question fondamentale, la responsabilité me semble-t-il, de Ahmad Ahmad était plus importante parce que c'est lui le président de la CAF, je suppose. C'est lui le président. Et si on le suspend, lui, c'est pour donner certainement l'exemple. Mais si, dans le cas échéant, le Mauritanien aurait pu, par solidarité, démissionner lui-même, il l'a pas fait. Et il est sur la ligne de départ pour être président de la CAF. On attend de voir la FIFA, je ne dirais pas qu'elle fait
du deux poids, deux mesures.
Non, mais forcément, il y a des éléments qui militent en faveur du Mauritanien. Pourquoi on ne le suspende pas alors qu'on vient de suspendre Ahmad Ahmad, même s'il est
Ahmad récupère son poste grâce au TAS.
Oui, malheureusement, le TAS vient de désavouer la FIFA. C'est bien compliqué qu'on nous mette dans cet imbroglio-là qui ne permet pas de comprendre correctement ce qui se passe. Est-ce que la FIFA, en suspendant Ahmad Ahmad, avait eu tous les éléments, avait vérifié tous les contours avant de le suspendre? Aujourd'hui, c'est un désaveu grave pour la FIFA et toutes les décisions qu'elle va prendre prochainement vont être, j'en suis convaincu, prises à ce que, de sorte que tous ceux qui vont être touchés par la FIFA vont saisir le TAS et si le TAS les réhabilitait, le cycle final va continuer. Malheureusement, ça discrédite tout ce qui se fait au sein de la famille foot.
Voilà. Valdo, Ahmad rejeté par la FIFA puis accepté temporairement par le tribunal arbitral du sport. Le dirigeant malgache qui a fait appel auprès du TAS fin novembre a reçu un premier avis favorable et pourra mener campagne en vue de sa réélection.
Retour à la course d'Ahmad Ahmad. Élysée, les prochaines élections de la CAF s'annoncent très mouvementées avec cette décision du tribunal arbitral au sport qui ouvre cette fenêtre aux Malgaches. Logique qu'ils battent campagne parce que les TAS lui ont donné une sûreté de droit et avoir dans leur course les candidats à sa propre succession change beaucoup de choses. Cette décision du TAS est en train de remettre en cause certaines décisions prises par la FIFA à l'encontre de la CAF. Aujourd'hui, l'impression qu'est dans la FIFA est telle qu'elle veut mettre sous sa tutelle la Confédération africaine de football pour avoir le contrôle de celle-ci et bien au-delà, voire au niveau de certaines fédérations. Où en sommes-nous avec les élections au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Bref, avec cette tournure, la mainmise de la FIFA au niveau de la CAF risque bien de connaître une grande limite.
Handball à présent. Le mondial masculin a pris fin en Égypte avec le sacre du Danemark qui a battu en finale la Suède. L'Espagne finit troisième devant la France. Une fois encore, l'Afrique n'ira pas plus loin que les quarts de finale après avoir placé que deux équipes au tour final. Amine, l'Afrique, une fois encore, n'a pas été à la hauteur.
Je ne parlerai pas de participation décevante puisque l'équipe d'Égypte a été très brillante et a failli passer dans le dernier carré de la compétition, uniquement éliminée au tir au but par le Danemark, actuel tenant du titre. On peut également dresser un satisfecit par rapport à la participation algérienne puisque les Fennecs ont réussi à passer le premier tour. Il est vrai que le cas tunisien peut également nous interloquer parce que la Tunisie est habitué à faire beaucoup mieux et se retrouve 25e seulement du classement de cette Coupe du Monde. Le Maroc, l'Angola et un degré moindre la RDC étaient là pour apprendre. Et puis, on ne peut juger le bilan du Cap-Vert qui n'a disputé qu'une seule rencontre, qui s'est vu privé de toute chance de participer à la compétition en raison d'un cluster de Covid. Ce sera partie remise certainement pour cette sympathique formation.
Valdo, la RDC aura réussi tout de même son apprentissage avec une 28e place sur 32 équipes.
Élysée, c'est un apprentissage quasi réussi à ces niveaux de la Coupe du Monde du handball. Chez le Leopard, messieurs, la RDC peut bien se satisfaire de sa 28e place puisque n'étant pas les derniers, c'est comme ça que l'on peut voir hein, d'un autre œil cette participation congolaise à ces championnats du monde. Mieux à faire après cette Coupe du Monde, c'est fixer l'objectif d'être présent à la prochaine compétition, ce qui voudrait dire qu'au niveau du continent, la RDC doit batailler dur et s'est classée en ordre utile pour y arriver. Pour une première participation à la Coupe du Monde de handball, il y a de quoi se satisfaire avec des individualités qui ont fait parler d'elles durant cette compétition Élysée.
Amédine, c'est un pari gagné pour l'Égypte qui a accepté d'organiser cette compétition vu la situation sanitaire que traverse le monde.
Tout à fait Élysée, l'Égypte a relevé le défi de l'organisation de cette Coupe du Monde handball, ce qui constitue un exploit car le contexte est extrêmement difficile avec la situation sanitaire qui traverse le monde. Mais cela ne me surprend pas, Élisée, hein, car le pays des pharaons a l'habitude de relever ces gens de défis. Ce fut le cas avec la CAN 2019. L'Égypte avait remplacé au pied levé le Cameroun et cela n'avait pas empêché